Il faut remonter en 2006 pour voir un Américain en finale de l'US Open. Cette année, la pépite Ben Shelton va tenter sa chance contre Novak Djokovic, le grandissime favori de l'édition 2023. Alors, peut-il le faire et ainsi marcher sur les traces de Pete Sampras en 1990? Je ne pense pas, mais bon, ça risque pas d'être pire que la performance qu'on a eue de Taylor Fritz en quart de finale. Je t'en dis pas plus et on se retrouve après le jingle. Comme tu le sais, Novak Djokovic est un homme de chiffres. C'est sa 47e demi-finale en majeur, sa 12e à l'US Open où il s'inclinait seulement 3 fois, 2 fois contre Roger Federer et une fois contre Kei Nishikori. Et pourtant, il ne comptabilise que 3 titres à l'US Open, le dernier en date en 2018. Si on prend un petit peu sa saison 2023, elle est exceptionnelle là encore. 43 victoires, 5 défaites, dont 25 victoires pour une seule petite défaite sur dur. C'était en début d'année à Dubaï contre Daniil Medvedev. Des titres, il en compte 4, dont 2 grands chelems à l'Open d'Australie et Roland-Garros, ainsi qu'un Masters 1000 à Cincinnati et un petit 250 en début d'année à Adelaide. Son parcours, plutôt tranquille sur le papier. Au premier tour, Muller, ensuite Zapata, Djere, Goyo, ainsi que Fritz. Il a concédé 2 sets, c'était au troisième tour contre son compatriote Laszlo Djere, et il a passé 12h21 sur les cours. Personnellement, je suis persuadé que perdre en finale de Wimbledon lui a fait le plus grand bien. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à l'US Open avec la pression de ce grand chelem, comme ça avait été le cas à l'US Open en 2021. Et sur le papier, il a eu quand même un tirage relativement abordable. Il a écœuré notre français Muller au premier tour contre Zapata, alors que l'espagnol a fait un très bon premier set. Finalement, il n'aura mis que 6 jeux. Le gros match, c'est au troisième tour qu'il a eu contre Laszlo Djere, où son compatriote a su tenir la dragée haute, notamment dans la diagonale revers, qu'il a été menaçant à la relance, qu'il a su faire la différence avec sa puissance. Mais comme souvent dans ces matchs, quand tu mènes 2-7 à rien contre Novak Djokovic, après une petite pause toilette et le fait que le Joker s'est recentré un petit peu dans les vestiaires, il va arriver avec une tactique différente où il va se montrer beaucoup plus défensif en faisant que ça soit son adversaire qui aille chercher le match, qui fasse la différence, qui marque les points. Et là, on a eu Laszlo Djere qui s'est un petit peu liquéfié, notamment côté coup droit, il a fait énormément de fautes directes. Par contre, il a su obtenir une balle de débreak à la fin du match, ce que n'ont pas su faire des Yannick Sinner, Musetti ou Stefanos Tsitsipas. Mais là, c'était vraiment un bon match pour Djokovic pour se lancer alors qu'il avait un tirage abordable. Là, vraiment de prendre du rythme, des repères. Derrière, il a déroulé contre Goyo, le qualifié, le croate avec son gros service et sa qualité de coup droit. N'a pas su faire la différence contre Novak Djokovic, même si c'était pas un très très bon match de la part des deux joueurs. Et en quart de finale, contre Taylor Fritz, là encore, l'américain a pris une fessée 6-1, 6-4. 6-4, on a eu une belle purge, tellement prévisible, même si on voyait Taylor peut-être prendre un set. Parce que l'américain, il est resté dans sa filière de jeu qui correspond parfaitement à Novak Djokovic. Du fond du court, il n'a pas proposé de variation parce qu'il joue dans un rythme très linéaire, très monotone. Et Novak Djokovic, il adore ça, il contre. Et Taylor Fritz, il ne va pas faire d'amorti, monter au filet pour conclure le point. Ce qui fait qu'on a eu un match assez catastrophique de sa part, notamment au service. Il l'a dit lui-même, pas un très très grand match. Novak Djokovic, qui n'a pas eu d'excellentes stats non plus au service, sachant que c'est 61% de première balle pour 68% de réussite derrière, 51% faute directe côté Taylor Fritz. Il a breaké seulement 2 fois le Joker sur les 12 occasions qu'il s'est procuré. Finalement, la principale menace dans ce match, c'était plutôt le public, où on a vu Djokovic à la fin du 3ème set s'énerver contre quelqu'un dans les gradins. Mais Taylor Fritz n'a pas pesé bien lourd. Au niveau des statistiques, il faut retenir par rapport au Joker, c'est vraiment sa qualité de première balle, seulement 65% de première en moyenne cette semaine, même si derrière il a une réussite à 79%. Il a été très réaliste sur ses balles de break avec 53% de break converti, mais comme je te le disais, et c'est vrai que c'est un petit peu le cas depuis Wimbledon, où je trouve que son pourcentage de première balle a un petit peu chuté. Il faudra surveiller ça sur la fin du tournoi parce que ça peut être une menace s'il venait à jouer par exemple Carlos Alcaraz. Avant de passer à Ben Shelton, la surprise de cette US Open, un mot du sponsor de cette vidéo, Royalties. Tu connais la bourse, tu investis dans des entreprises auxquelles tu crois en achetant des actions et en fonction de leur performance, tu vas améliorer tes rendements. Royalties, c'est exactement la même chose, sauf que tu n'investis pas dans des entreprises, mais dans des talents. Donc tu as plusieurs sports qui sont représentés. Là, forcément, on va s'intéresser au tennis, où tu peux investir sur différents talents, que ça soit Caro Garcia, Daniil Medvedev, Lorenzo Musetti, Borna Coric, Nick Kyrgios, Noskova et bien d'autres. Je te laisserai aller voir tout ça. Tu vas acheter un ROI, ce qui est l'équivalent d'une action en bourse, et en fonction des performances de ce joueur sur le terrain mais également sur les réseaux sociaux, il y a un algorithme qui te calcule tout ça et qui va te donner des plus-values chaque mois par rapport à tes différents investissements. Donc c'est vraiment intéressant parce que tu vas t'embarquer dans l'aventure du joueur auquel tu crois, et en fonction de ses résultats tu vas augmenter tes revenus par rapport à ce que tu as investi initialement. Donc c'est vraiment un très bon moyen d'investissement qui change de la bourse. Je te mets un lien d'affiliation, il suffit que tu t'inscrives, que tu fasses ta première transaction, donc que tu achètes un ROI d'un talent auquel tu crois. En moyenne, le ROI d'entrée est à 2 euros. Après, ça peut être plus en fonction des performances actuelles du joueur, bien évidemment, s'il est beaucoup demandé. Donc forcément, son ROI va augmenter. Avec ce lien d'affiliation, une fois ta première transaction faite, tu as accès à un reward, un bonus. Et t'as le choix entre soit une somme d'argent qui est tirée aléatoirement, soit un talent que tu vas gagner de façon aléatoire, soit un cadeau. Et par exemple, ça peut être des AirPods. Donc ça vaut le coup. Un grand merci à Royalties. Et bien évidemment, c'est une activité sensée. Donc n'investis pas de l'argent que tu n'as pas. Toujours la prudence. De l'autre côté du filet, on retrouve Ben Shelton qui a tout juste 20 ans. Ben, il a parfaite définition d'atteindre son pic de forme en Grand Chelem, sachant qu'en majeur, sur dur, cette saison, c'est 9 victoires pour une défaite. Cette défaite, c'était contre Tommy Paul à l'Open d'Australie. Et si on regarde le reste de sa saison, c'est 8 victoires pour 20 défaites. Parce que oui, il faut quand même reconnaître que depuis cette défaite en quart de finale à l'Open d'Australie en début d'année contre son compatriote Tommy Paul, Ben Shelton, il était complètement transparent où il était incapable d'enchaîner 2 victoires de suite. J'aimerais quand même m'attarder quelques minutes sur l'histoire de Ben Shelton qui est quand même assez incroyable. C'est le fils de Brian Shelton qui est un ancien 55e mondial. Il a été formé aux États-Unis. Il n'a pas fait de match en U14 en Europe, seulement 4 tournois disputé chez les juniors aux États-Unis, bien évidemment. Et il n'a jamais disputé l'US Open junior. Il a fait ses débuts en 2021 avec 18 victoires pour 7 défaites où il passe de non classé à 548e mondial en 8 tournois. Et c'est surtout en 2022, la révélation qu'on a commencé à entendre parler de lui, où il fait notamment 40 victoires pour 11 défaites avec 3 titres en challenger. Et bien évidemment, en 2023, c'est là qu'il va commencer à sortir du continent des États-Unis avec ce premier quart de finale à l'Open d'Australie et derrière la saison qu'on lui connaît et maintenant cette demi-finale à l'US Open. Et la consécration de tout ça, c'est qu'au pire, il sera 19e au classement ce lundi et il est actuellement 17e à la race. C'est le plus jeune joueur américain à rallier les demi-finales à l'US Open depuis Michael Chang en 1992. Comme je te le disais, son bilan 2023 est forcément paradoxal. 17 victoires, 20 défaites, donc 13 victoires pour 10 défaites sur dur. 2 victoires, 5 défaites contre des membres du top 10, c'était contre Casper Ruud l'an dernier et cette saison-là contre Tiafoe à l'US Open. Son parcours Kachin, Tim Karatsev, Paul et Tiafoe, il a concédé 4 sets, 1 contre Kachin, 1 contre Karatsev, 1 contre Paul et 1 contre Tiafoe. Il a passé en tout 11h38 sur les courts. Ce qui est intéressant, c'est de comparer l'évolution du joueur entre l'Open d'Australie et l'US Open, où on voit vraiment qu'il a progressé parce que à l'Open d'Australie, il avait disputé 8 tie-breaks sur 20 sets disputés. Là, il en a disputé seulement 2 sur 17 sets. Et surtout, le garçon, il a évolué à la relance. 13 breaks réalisés à l'Open d'Australie contre 24 ici. Et il est passé de 38% de breaks convertis à 57% à New York. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Ben Shelton, il évolue avec la bonne attitude sur ce tournoi à l'US Open, sachant qu'il joue avec la grinta. Il a cette forme de fraîcheur où il n'a pas peur de gagner. Il va chercher ses matchs, il joue avec le public. Et pourtant, ses matchs sont assez décousus d'entrée. Contre Pedro Kachin, il perd le premier set en 24 minutes, 6-1, où il est inexistant avant de se reprendre. Contre Dominic Thiem, il profite de l'abandon de l'Autrichien suite à ce virus qui a touché pas mal de joueurs. Au troisième tour, il lâche un set contre Karatsev. Il prend sa revanche en 8e contre Tommy Paul, alors que son compatriote commence très très fort. Il a deux doigts de mener 4-0. On sent vraiment Ben Shelton qui n'est pas du tout dans son match avant de se reprendre. Il aurait pu boucler ça en 3 sets, sachant qu'il va mener 4-1 dans le troisième set et qu'il va perdre tous les autres jeux restants avant de se faire embarquer dans un quatrième set et de prendre le dessus sur Tommy Paul. En quart de finale contre Francis Tiafoe, ça fait 6-2, 3-6, 7-6, 6-2. Là aussi, son compatriote est passé un petit peu à côté de son match, sans doute trop de pression avec cette pancarte de favori et qu'une autre demi-finale à l'US Open était à portée de main. Il va très mal commencer ce match. Il va prendre le second set 3-6. Dans le troisième set, on a vraiment un échange de break des breaks, notamment dans le tie-break où Ben Shelton va dominer. Il va faire deux vilaines, double faute, balle de set pour Francis Tiafoe. Et là, on va avoir un superbe retour gagnant de Ben Shelton, enfin pour sauver cette balle de set et derrière prendre ce set au tie-break avant de rouler 6-2 contre Francis Tiafoe. Donc vraiment, on a un joueur qui a su prendre le dessus sur Francis Tiafoe, qui s'est montré un petit peu trop timide, je trouve. Ben Shelton, il est explosif et il rappelle forcément l'arrivée sur le circuit de Denis Shapovalov en 2017, où il avait eu ce run au Canada assez impressionnant. Il avait sorti notamment Rafael Nadal, parce que Ben Shelton, c'est un joueur très athlétique qui sert forcément très bien, qui a un énorme coup droit, qui n'hésite pas à monter au filet avec 63% de réussite quand il monte au filet. Côté revers, c'est pas forcément son point fort, mais il reste relativement stable et surtout, comme je te l'ai dit, il a énormément progressé à la relance où il essaie de se montrer agressif, de se procurer des opportunités, ce qui va permettre de le soulager de lui enlever un poids si justement il n'arrive pas à conserver ses jeux de service. Au niveau de ses stats, depuis le début de la quinzaine, 76 aces, 67% de première balle, 77% de points gagnés derrière, 55% sur seconde balle, breaké 11 fois, mais il a breaké 24 fois ses adversaires, avec, comme je te le disais, 57% de réussite. Au niveau des confrontations, les deux joueurs ne se sont jamais rencontrés, ça va être la découverte pour l'un comme pour l'autre. Au fait, nous c'est Game Stentol qui en aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune, alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner, sachant qu'on a une couverture complète du dernier grand chelem de l'année, comme tu peux voir mes cernes actuellement à force de voir tous ces matchs pour te donner le meilleur contenu possible avec les meilleures analyses possibles. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire, tu t'abonnes, tu cliques sur le petit plus et en plus tu peux activer la petite cloche pour être notifié dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Au niveau des clés tactiques, ça n'est jamais facile de jouer contre un adversaire que tu découvres, que ça soit Ben Shelton ou Novak Djokovic, l'un pour l'autre, ils vont avoir un temps d'adaptation, Djokovic par rapport à la qualité de service de son adversaire et également Ben Shelton par rapport à la pression que le Serbe va lui mettre. Et Ben Shelton, ce qu'il pourrait faire, c'est s'inspirer un petit peu de la tactique de Jiří Veselý, qui est invaincu contre Novak Djokovic. Certes, le dernier affrontement, c'était à Dubaï en 2022, où le Serbe revenait à la compétition, après qu'il ait été privé d'Open d'Australie. Mais qu'est-ce qu'il faisait, le Tchèque, sur ses engagements? Côté égalité, il servait sur le coup droit de Novak Djokovic, majoritairement en première balle, et il variait sur ses secondes balles. Et côté avantage, il servait extérieur, donc sur le revers de son adversaire, le service classique de gaucher. Là, c'était vraiment trois quarts du temps sur le revers. On sait que c'est l'avantage du service de gaucher. Après, on avait un Jiří Veselý qui rentrait dans le terrain, qui essayait d'agresser Novak Djokovic pour justement gagner la filière courte. Ça, Ben Shelton peut le faire, notamment à la relance, s'il arrive à être aussi tranchant sur les services de son adversaire. Côté diagonale, donc on sait que la force de Djokovic, c'est son côté revers. Donc là, essayer de tenir cette diagonale avec son coup droit et surtout d'attaquer le long de ligne dès qu'il peut. Ne pas hésiter à terminer les points au filet. On l'a vu souvent, Ben Shelton attiré par le filet. Ça peut être intéressant, notamment après ses grosses premières, ses bombes qu'il envoie au service. Et il va devoir être réaliste, mettre la pression à la relance pour Novak Djokovic. On sait que son pourcentage de première balle a un petit peu diminué, le faire douter. Donc là, vraiment un gros package pour Ben Shelton pour réussir l'exploit de renverser Novak Djokovic. Côté serbe, comme je te le disais, il va avoir un temps d'adaptation sur les 2-3 premiers jeux de service de son adversaire pour voir comment il sert, quelle zone il privilégie. Et ensuite, Novak Djokovic va mettre la pression à la relance. On sait que c'est son point fort qui va justement asphyxier son adversaire avec des retours longs et profonds dans les jambes qui va empêcher le service puissant de son adversaire. Et Djokovic, derrière, il a tout intérêt à déplacer son adversaire, que ça soit de l'arrière vers l'avant ou sur les côtés avec ses déplacements latéraux, parce qu'on sait que s'il arrive à l'emmener dans un combat physique, c'est lui qui aura l'avantage. Si on regarde un peu les stats de Djokovic contre des gauchers, c'est 77% de victoire, et si on enlève Rafael Nadal de l'équation, c'est 90% de victoire et 87% de victoire sur des joueurs qui font 1m93 ou plus. Donc Djokovic, il arrive parfaitement à jouer contre les gauchers, à relancer, il a toutes les cartes en main pour s'imposer dans cette rencontre. C'est pourquoi au niveau de mon pronostic, même s'il va y avoir cette phase d'adaptation, de découverte, je vois quand même Novak Djokovic s'imposer en 4 sets, peut-être un set où son adversaire va jouer le feu, va profiter du public pour justement surprendre un petit peu Novak Djokovic, mais sur la longueur, je vois vraiment le Serbe faire la différence. Et toi, qu'en penses-tu? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires. Tu peux nous rejoindre sur Discord si tu veux échanger de façon quotidienne avec nous. Et nous, notre prochaine échéance, c'est un live ce jeudi pour revenir sur les quarts de finale et se projeter sur les demi-finales.